Moi, j'ai un souvenir qui remonte un peu à loin. C'est un film d'une réalisatrice canadienne qui s'appelle Léa Poole. Le film s'appelle Lost and Delirious et c'est l'histoire d'amour entre deux jeunes femmes dans un collège au Canada, donc avec vous avez les filles en uniforme et tout ça. Et donc c'est une histoire d'amour qui se termine mal. Mais ce film m'avait beaucoup marqué parce que cet amour semblait tellement pur et sincère et honnête et intense aussi. Ça doit être un des premiers films, en tout cas dont je me souviens, qui ne se termine pas bien, mais qui avait quand même laissé des traces chez moi. Et je me disais, il faudrait peut-être autre chose. Et donc, quand j'ai découvert Cinéfable, quelques années après, en arrivant à Paris, j'ai commencé à voir d'autres représentations et j'étais contente aussi.
Bonjour à tous, je suis Antonella et bienvenue dans le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. À l'adolescence, lorsque j'étais une queer dans le placard dans ma petite ville du sud de la France, tomber sur des lesbiennes dans la fiction me donnait un sentiment d'émerveillement, de réconfort et d'appartenance. La petite otaku que j'étais a été sidérée quand elle a découvert Strawberry Panic, un animé où tous les personnages étaient des filles dans un internat et elles vivaient des histoires d'amour entre elles. Je me souviens de relire plusieurs fois, incrédule, la page où on découvre qu'un personnage, femme, de Boomerang de Tatiana Deroné, vit une histoire d'amour avec une autre femme. Et puis ado, je commence à fréquenter sans mes parents le cinéma d'art et essai de ma petite ville. Au lycée, je vois La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche et puis Mademoiselle de Park Chan-wook. Je prends des claques de voir à l'écran ce que j'avais vécu. Alors bon, c'est toujours filmé par des hommes, certes. Et puis arrive Céline Sciamma. Ah, Céline! À chaque fois, je découvrais des lesbiennes au cinéma comme on trouve un trésor. J'étais frappée d'une décharge de joie, mais ces découvertes étaient souvent dues au hasard. Et aujourd'hui, vous me dites qu'il y a un festival entier de films lesbiens. J'ai l'impression d'être dans un magasin de bonbons. Je parle du festival Cinéfable. C'est du 31 octobre au 3 novembre à l'espace Reuilly dans le 12e arrondissement de Paris. Et pour en parler, je suis avec Patty et Sarah Anaïs. Bonjour Patty. Bonjour Sarah Anaïs. Alors dites-moi, ça va se passer comment ce festival? C'est quoi le programme des 4 jours?
Le festival commence donc le jeudi 31 octobre. Il s'ouvre avec un concert le premier soir et puis une première séance de projection. Et puis après, on enchaîne avec 3 jours de projection non-stop. Il y a également des performances le samedi et dimanche. Et donc voilà, c'est 3 jours et demi de films, de très bonne ambiance. Il y a également une exposition, ne pas oublier, à l'espace Reuilly. Et donc, voilà, l'ambiance est très conviviale, il y a même également à manger parce que les cinéfabuleuses, elles, savent cuisiner. Voilà.
On arrive le matin, à partir de quelle heure? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des projections de films les unes après les autres. Comment en fait ça va se dérouler concrètement et comment on fait pour venir? Est-ce qu'on achète les places sur place? Est-ce qu'on les achète à l'avance?
On peut les acheter en ligne sur Hello Asso, donc on peut déjà les précommander. Et sinon, on les achète sur place, donc il faut arriver en avance parce qu'il y a beaucoup de monde. Et donc le site ouvre à 11h30, je crois. L'accueil se fait à partir d'11h30 le matin. Il y a 4 projections, 11h30, 14h15, 16h45, 19h30. Et samedi et dimanche, il y a également une projection à 22h. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts.
Et si on décide de se faire un marathon de films lesbiens et qu'on veut passer 4 jours d'affilée sur place, on peut? Est-ce que
Non seulement on peut, mais c'est fortement conseillé de se faire une immersion totale hors d'Hétéroland. Ça fait vraiment un bien fou. Donc oui, c'est tout à fait possible. Justement, la restauration est prévue et les séances sont organisées pour qu'on ait à chaque fois le temps, même si parfois c'est pas très long, mais on a le temps de boire quelque chose, de manger, d'un petit moment de convivialité entre les séances et on est reparti. Et c'est quelque chose d'assez unique justement de passer ces 4 jours juste entre femmes et ou lesbiennes. Et c'est magique. Donc c'est conseillé de faire plus que... Enfin, je dirais, si on n'a pas l'occasion de passer les 4 jours, déjà venir à une séance, c'est déjà magnifique. Mais alors, l'immersion sur la durée, c'est ça qui fait vivre quelque chose qu'on ne vit vraiment pas ailleurs.
Et j'aimerais bien qu'on parle un peu plus en détail de cette programmation. Déjà, racontez-moi comment vous sélectionnez toutes les deux les films avoir. J'imagine que c'est un travail de très longue haleine, que vous devez manger et manger et manger du cinéma, ce qui n'est pas une punition. Mais comment, en fait, elle se fait, cette sélection et cette programmation du Festival Cinéfable ?
Alors, elle commence bien en amont. Donc, Patty et moi, on fait toutes les deux partie de la commission programmation. Et donc, dès le mois de janvier de l'année dernière, hein, on a commencé à chasser des films. C'est comme ça, on chasse les films. Bon, il y a bien sûr des candidatures spontanées qui nous arrivent. Mais donc, chaque programmatrice est responsable d'une zone dans le monde. Donc, et on, voilà, on cherche des films qui pourraient convenir, correspondre à nos critères de sélection, à savoir donc, être féministe ou proposer une représentation lesbienne. Et voilà, donc on visionne beaucoup de films. Et en général, on choisit des films, on a notre liste de films vers le mois de juin. On établit la grille. Et donc, oui, beaucoup de travail, mais beaucoup de plaisir aussi à visionner plein de films du monde entier.
Et est-ce que, du coup, il y a des discussions entre dans le comité, comment on en arrive à la liste finale ? Est-ce que des fois, il y a des débats
Ah oui. C'est ce qui met tout le piment aussi. Et puis, la joie de se retrouver. En fait, en gros, pour être vraiment très précise, on se retrouve à peu près par Zoom. Là, c'est ce qui a facilité la chose. Tous les 10 jours. Donc, toute l'équipe des programmatrices, des chasseuses-cueilleuses, ont une liste de films que nous regardons toutes, nous visionnons toutes, que les filles entre nous ont proposé pour la séance d'après. Et toutes les filles les regardent. Et on va mettre des notes, on va en discuter et on va revoter une deuxième fois. Donc, une fois qu'on aura pu défendre un projet ou dire les plus, les moins. Et donc là, parfois, il y a de gros débats. Et au final, on revote une dernière fois donc pour sélectionner, mettre de côté ou rejeter, enfin, en gros. Et à la fin, mai et juin, on va regarder combien on en a. Et des longs, des courts, on essaye de faire attention quand plus on se rapproche de la fin du printemps. Et plus on veille à ce que l'on présente donc à toute l'équipe dans les films à regarder tous les 10 jours, si on a besoin de plus de longs, plus de courts, voilà, on va commencer à préciser aussi ce qui manque pour la sélection finale.
Et est-ce que c'est seulement des films qui sont sortis du coup dans l'actualité, des films récents, ou est-ce qu'il y a un panachage entre des films de l'actualité, des classiques ? Est-ce que c'est un festival d'actualité ou est-ce que c'est aussi un festival hommage, rétrospective ?
Alors, on choisit des films qui ne sont pas encore sortis en salle, donc des films plutôt récents. Il y en a plusieurs critères comme ça. Et donc, bien sûr, on essaie de mettre en valeur des réalisatrices qui sont pas moins dans le circuit, on va dire, du cinéma mainstream. Ces dernières années, on n'a pas fait de séance transmission, ou comme vous l'avez dit, classique, lesbien, enfin, film féministe, lesbien. Mais c'est dans nos projets pour les années prochaines. On aimerait bien remontrer des films qui ont déjà été projetés à Cinéfab et qui ont eu un succès, ou bien des grands classiques du cinéma féministe et lesbien.
Est-ce que c'est que de la fiction ? Vous avez mentionné des courts-métrages, des longs-métrages. Est-ce qu'il y a des documentaires ? Enfin, on retrouve quel genre dans la programmation ?
Oui, absolument. On essaye d'avoir une programmation très variée. Donc, des courts, des longs, des documentaires, des films de fiction, des films expérimentaux aussi, beaucoup. Des films de jeunes créatrices ou de fin d'école. Des comédies musicales, oui, on a un film formidable cette année. Je ne sais pas si je peux l'évoquer.
Oui, bien sûr.
Déjà, parce que donc, je crois que c'est le vendredi soir. Il s'appelle Reas et c'est un film argentin. Et ouais, il est formidable. Il mêle vraiment plusieurs genres parce que c'est à la fois j'allais dire une autobiographie. Enfin, c'est à la fois inspiré de faits réels. Ça a été tourné dans une ancienne prison, mais ce sont d'anciennes incarcérées elles-mêmes qui ont écrit leur histoire.
C'est un film qui est aussi une pièce de théâtre en vérité qui va passer
oui.
à Paris, c'est ça. Ah, mais génial, j'ai ma place pour aller loin.
Oui, voilà. Et donc il y a de la ça chante. Les filles ont écrit aussi leur texte, leur histoire, rejouent leurs personnages ou ça danse, ça chante. C'est à la fois très joyeux, mais en abordant des sujets très très durs et très profonds et très touchants, avec un panel de femmes formidable.
Donc il y a l'Argentine cette année. Il y a quels autres pays dans cette programmation ? On peut voir des films qui nous viennent d'où ?
Alors, j'ai relevé 17, parce que j'ai fait un petit peu mes devoirs avant de venir. Donc j'ai relevé qu'on avait 17 pays représentés, en tout cas dans la production. Après, il peut y en avoir même plus, parce que parfois les films se passent ailleurs de leur lieu de production, enfin de leur Donc on a la France, le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Belgique, la Suisse, la Grèce, l'Afrique du Sud, Italie, Espagne, Chine, Brésil, Liban, Pakistan, Vietnam, Allemagne, et un film qui se passe au Chili aussi. Donc on essaye vraiment de, c'est pour ça qu'on s'appelle le festival international, c'est qu'on essaye vraiment, on est répartis en zones géographiques parmi les programmatrices et on chasse suivant les zones géographiques qui nous sont attribuées, voilà, ou qu'on choisit. Et pour essayer de justement représenter tous les endroits du monde le plus que possible.
Et donc, toutes les deux, c'est quoi vos zones? Et est-ce que vous voulez me donner un peu votre coup de cœur, votre pépite absolue de cette édition?
Alors moi, depuis quelques années, je suis responsable de la zone Europe du Sud. Donc, je m'occupe de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, entre autres. Et cette année, on a un magnifique film d'animation espagnol réalisé par Isabelle Helguera. C'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans le cinéma et qui, lors d'un voyage en Inde, découvre un livre qui s'appelle « Le règne de la sultane » où il est question d'un monde utopique qui s'appelle « Ladyland » où les hommes sont à la maison et ce sont les femmes qui sont les chefs, voilà, qui ont le pouvoir. Et donc, c'est un film d'animation très poétique, très beau, avec beaucoup de digressions, beaucoup de rêveries. Voilà, c'est notre film de clôture cette année, le dimanche soir. Et donc, oui, je l'aime beaucoup.
Et toi, Sarah Naïs, c'est quoi ta zone géographique et c'est quoi ton coup de cœur de cette année?
Alors, ma zone géographique, j'avais l'Europe de l'Est jusqu'à l'Asie aussi. On pouvait être sur plusieurs zones. Et alors j'ai des coups de cœur qui seront peut-être l'année prochaine, mais sinon pour cette année, j'ai des coups de cœur qui ne sont pas forcément dans cette zone-là, mais il y a un film qui s'appelle Give It To Me, un court-métrage, et qui est vraiment formidable, enfin que j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'est, pour ne pas trop le spoiler, il faudrait que je sache m'arrêter à temps, mais disons qu'il s'agit de surmonter un traumatisme. Mais le film est, lui, pas lourd du tout. Et une complicité entre la femme qui essaye de surmonter son traumatisme et une travailleuse du sexe qui va l'aider à changer sa vie. Et donc, il est très, très poétique, très poétique, très positif et drôle aussi. Je sais qu'on fait, on a aussi donc une commission sous-titrage. On sous-titre nous-mêmes, tout Cinéfab sous-titre tous les films en français. Et lorsque ce sont des films francophones, on fait le sous-titrage adapté aux sourdes et malentendantes avec le code couleur approprié. Et donc, pour le sous-titrage, on se réunit en couturière pour une fois qu'on a travaillé sur la synchronisation, la traduction. Et puis, on se les montre aussi entre nous pour vérifier par des yeux neufs qu'il n'y a pas de problème. Et donc, je sais que les filles en couturière qui ont découvert ce court-métrage ont beaucoup ri, alors que... On aurait pu, avec un film sur un traumatisme et le travail du sexe, on aurait pu se dire qu'il va y avoir débat ou crispation sur quelque chose de lourd, peut-être de traumatique. Mais alors, c'est vraiment tout l'inverse. Elles ont beaucoup ri et été touchées et adoré ce film.
Le Lobby. Tous les vendredis à 14h en DAB+. Sur Radio Campus Paris.
Donc c'est vraiment du travail d'orfèvrerie, le festival Cinéfable. Et est-ce qu'on peut remonter un petit peu dans le temps? Ce festival, il naît comment? Elle vient d'où, cette idée d'un festival féministe et lesbien?
Alors nous, on n'y était pas, mais on sait que ça remonte à 1989. C'est un ciné-club, en fait, qui s'est créé pour prendre un peu ses distances vis-à-vis du festival de films de femmes de Créteil, où les lesbiennes avaient trouvé pas leur place. Et donc, elles ont créé ce ciné-club qui a fini par s'appeler Cinéfable quelques années après. Donc, parce que c'est le cinéma et ce qui est ineffable, voilà, indicible et en même temps ce qui est agréable. C'est... Et donc, voilà, c'est donc la 36e édition cette année, hein, si on fait les comptes. Et donc, le festival s'est tenu dans divers lieux parisiens. Mais donc, depuis plus d'une dizaine d'années, ça se fait à l'Espace Reuilly, dans le 12e. Près de Montgalet. Et on sait que depuis le début, il y avait une exposition, hein, c'était toujours le cinéma avec autre chose, hein, une exposition. Ça fait plusieurs années qu'il y a des concerts aussi, un concert le soir d'ouverture. Donc c'est un festival vraiment
peut-être pas dire pluridisciplinaire, mais vraiment ouvert, qui intègre beaucoup de médias, beaucoup d'art. Hein. C'est pas que le cinéma, bien, si, bien sûr, c'est principalement le cinéma, mais plein de choses. Hein, voilà.
Et vous deux, ben, j'imagine que ça prend du temps de faire un festival comme ça. Ça doit venir des tripes. Comment vous est venu l'amour du cinéma lesbien? Et c'est quoi votre premier souvenir, votre première émotion, si vous vous en souvenez, ou l'une des premières de voir un film comme ça avec, avec de la représentation, avec de la visibilité lesbienne? Il vient d'où cet amour?
Moi, j'ai un souvenir qui remonte un peu à loin. Ça devait être 2000. Alors, ce n'est pas un film positif. C'est un film d'une réalisatrice canadienne qui s'appelle Léa Poole. Le film s'appelle Lost and Delirious. Et c'est l'histoire d'une histoire d'amour entre deux jeunes femmes dans un collège au Canada. Donc, avec vous avez les filles en uniforme et tout ça. Et donc, c'est une histoire d'amour qui se termine mal. Mais ce film m'avait beaucoup marqué parce que... cet amour semblait tellement pur et sincère et honnête et intense aussi. Oui, ça doit être un des premiers films, en tout cas dont je me souviens, qui ne se termine pas bien, mais qui avait quand même laissé des traces chez moi. Et je me disais, bon, il faudrait peut-être autre chose, même si j'avais été touchée par ces deux personnages. Mais je m'étais dit, bon, ce serait bien qu'il y ait autre chose. Et donc, quand j'ai découvert Cinéfable, quelques années après... Ouais, en arrivant à Paris, j'ai commencé à voir d'autres représentations et j'étais contente aussi.
Parce que cette première émotion, du coup, c'était une émotion avec beaucoup de pesanteur. Et c'était quoi les autres choses qu'il faudrait trouver, qu'il faudrait créer vous vous êtes dit qu'il faudrait d'autres représentations. C'est quoi les autres émotions que vous avez cherchées
dans d'autres films? Ouais. La joie, la légèreté aussi, parce que même si c'est vrai que il faut montrer des choses qui ne vont pas, c'est-à-dire que ça fait aussi partie être lesbienne et subir de la lesbophobie et de voir grandir avec le sentiment de honte ou de non-acceptation pendant des années, mais on veut aussi autre chose, comme je disais, des choses plus légères, une forme de normalisation, on veut ça, et je pense que maintenant dans le cinéma, il y a quand même plus, on voit plus ce type de film, mais oui, on attend plus de positif, pour le dire comme ça.
Moi, j'adore le cinéma, mais je suis aussi très série addict, et du côté lesbien, je me suis, peut-être parce que je n'avais pas les circuits, mais j'étais surtout en attente en 2004 de la sortie de The L Word, donc moi, c'était un peu pour les représentations, j'attendais cette sortie-là. Mais au cinéma, j'ai fait ma culture lesbienne après coup, pour le côté cinéma. Et à Cinéfab, ça fait qu'un an que j'y suis, et je ne connaissais pas avant, octobre l'année dernière, où j'ai rejoint directement en étant bénévole ponctuel pendant le festival, parce qu'on peut faire ça aussi. Et donc, c'était ma première immersion dans le cinéma lesbien, comme ça. Et j'avais commencé à refaire mes sources par ailleurs, donc... Je sais que j'ai découvert donc bien après mes Bound des sœurs Wachowski, qui donc c'est quand même assez fabuleux, et surtout quand on se dit que c'était dans les années 90, et bien sûr le portrait de la jeune fille en feu, pour moi ça a été quand même un grand grand moment, parce que la vie d'Adèle, je l'avais vue à l'époque. Mais j'étais quand même contente d'avoir enfin des histoires lesbiennes dans les salles. Mainstream, ça, mais il y avait des choses qui m'ont pas toujours plu, où je me suis pas forcément reconnue. Mais bon, bien sûr, moi je prenais tout ce qu'il y avait à prendre. Mais But I Am Cheerleader aussi, j'avais bien aimé. Et bon, c'est des choses assez grand public quand même. Mais après, tout ce qui est plus inconnu, je me fais ma culture . C'est pour ça que j'ai un peu plus de mal à en parler. Moi, je vais partir sur des séries sinon, et c'est pas le sujet. Donc voilà.
Et vous avez parlé de la représentation, de la visibilité, c'est essentiel, c'est une part hyper importante de votre démarche, j'imagine, mais bon, pourquoi en fait c'est important de montrer ces films-là, de créer un espace où on peut les voir, et c'est quoi les fondements de ce projet?
Je pense que c'est aussi pour mettre en avant les créatrices, femmes et lesbiennes, et ou lesbiennes, qui dans le monde de l'argent... n'ont pas toujours eu leur place et ont encore du mal à ce que des maisons de production, des boîtes de prod leur confient des sommes importantes ou croient en elles. Et donc, c'est toujours pas gagné pour les femmes d'avoir la place dans la société mainstream. Donc, ça vient, mais à notre échelle, on leur donne un espace aussi où il n'y a qu'elles et que nous. Et ça fait du bien.
Et avant de se quitter, j'ai une dernière question. Le reste de l'année, en dehors du moment du festival, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut suivre Cinéfable sur toute l'année?
Alors, on peut suivre Cinéfable sur les réseaux. Il y a un site d'abord, un site internet, cinéfable.fr. Et puis, sur Instagram, sur Facebook, sur X. Et sinon, donc, les événements Cinéfable, on a une partie de Cinéfable qu'on appelle nos hors les murs, qui sont, eux, mixtes. Parce que, donc, pour rappeler, donc, les 4 jours du festival, c'est vraiment ce moment assez à part dans le, par rapport à tout le reste de la société, de ce qu'on vit, et même dans notre communauté LGBTQIA+. C'est quand même quelque chose d'avoir 4 jours comme ça dans l'année entre femmes et ou lesbiennes. C'est à vivre. Mais sinon, le reste du temps, on a envie aussi de partager ça et ses créations et des discussions avec d'autres personnes, donc les hommes, hein, quels qu'ils soient. Et donc, nos hors les murs sont annoncés donc, dans nos réseaux. Enfin, là, on vient d'en faire un au bar queer et inclusif, le Merci Marcha. Dimanche dernier, c'était formidable. Merci encore, merci Marcha. Oui, un peu de pas d'autopromo pour le coup, mais parce que c'est vraiment aussi un super projet, ce bar qui a plein de belles programmations. Et on a projeté 5 courts-métrages, donc en toute mixité pour tout le monde et gratuitement. Et donc on essaye de faire ça dans différents lieux. On a participé au Drama Gwyn aussi quand elles ont eu au moment des visibilités lesbiennes fin avril. Et on essaie de trouver des lieux où faire des projections pour en faire profiter le plus grand nombre.
Donc voilà, il faut être aux aguets, donc des hors les murs sur tous les réseaux sociaux. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, j'ai brièvement évoqué les bénévoles ponctuels, donc pour venir aider et participer de l'intérieur au festival. Ça permet aussi, quelle que soit notre situation, mais si on a un peu moins de moyens, de ne pas payer les films pour lesquels on va être ouvreuse, par exemple, les projections. Et puis de connaître l'équipe, si on est un peu seul dans la ville et qu'on n'ose pas venir seul, ça permet de connaître du monde, de s'impliquer, d'être là avec une tâche et pas juste d'attendre sans oser parler aux gens. On est tout de suite inclus dans toute une équipe. Et c'est ce que j'ai fait la première année, l'année dernière. Et au mois de janvier, on a une réunion qui sera annoncée aussi sur les réseaux et sur le site où on présente l'association aux filles qui voudraient, aux femmes qui voudraient, femmes et personnes non binaires qui s'identifient sur le spectre lesbien, rejoindre l'équipe dans l'année, devenir programmatrice, sous-titreuse, la com resto, préparer des expos, préparer les hors les murs. Si on a plus d'appétence aussi pour les chiffres et les finances, on a besoin aussi de personnes qui viennent aider la com finance. La technique, évidemment, ouais, la com technique.
Pendant 3 jours et demi, hein, il faut s'occuper de la projection des films, du son, faire en sorte que tout se passe bien. Donc, oui, moi, si je peux ajouter quelque chose, Cinéfab, c'est un festival, un espace bienveillant, mais c'est aussi, donc, comme on l'a dit, presque 9 ou 10 mois de travail. Et donc, c'est aussi, c'est une association grâce à laquelle on apprend plein de choses, parce qu'il y a énormément de savoir-faire au sein de Cinéfable, et on fait des rencontres magnifiques, on apprend plein de choses, on apprend à travailler ensemble, on apprend collectivement, hein, et ça aussi je pense que c'est très important. Il y a le festival bien sûr qui est l'accomplissement du travail de ces 10 derniers mois, mais c'est aussi le travail aussi qui se fait entre nous à travers les commissions, les discussions parfois longues, mais c'est aussi ça qui est magnifique en fait, c'est le travail collectif, la préparation du festival, de ce moment hein, tellement privilégié dans l'année. Donc, c'est tout. Voilà, nous, on est contents de faire partie de cette association pour tout ce qu'elle nous apporte aussi. Hein, et puis, on est contente. Dans 10 jours, a lieu le festival. Donc, venez.
Oui, venez. Oui, on a hâte. Merci beaucoup, Patty et Sarah Anaïs, d'avoir été au lobby de Radio Campus Paris. On vous retrouve donc dans moins d'une semaine, à partir du 31 octobre à l'espace Reuilly dans le 12e arrondissement de Paris. Et on se quitte en musique avec le morceau Ever New de Beverly Glenn Copeland et Sam Smith, un morceau qui figure sur la dernière compilation de la Red Hot Organization, une association américaine de lutte contre le VIH.
Welcome the spring, the summer rain. softly turn to sing again. Welcome the bud, the summer blooming flower. Welcome the child whose hand I hold. Welcome to you, both young and old. We are ever new. Softly turn to sing again. Welcome the bud, the summer blooming flower. Welcome the child whose hand I
Cette émission a été présentée par moi, Antonella Francini, et réalisée par Colin. Big up à Colin. Au revoir, Patty, au revoir, Sarah Anaïs, on vous retrouve très vite.
Merci, Antonella. Merci, le lobby et Radio Campus.
Oui, merci à vous. À bientôt.
Tous nos épisodes sont à retrouver sur le site de Radio Campus Paris et sur les applications de podcast. On se retrouve aussi sur Instagram, @lelobbyrcp. À la semaine prochaine.
The young and old.